à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Robert Redeker, bonjour.
Bonjour.
Robert Redeker, vous nous avez fait le plaisir de venir débattre avec nous la semaine dernière pour nous présenter votre ouvrage, votre dernier ouvrage, parce que c'est le dernier jalon d'une longue série. Vous en avez déjà publié environ 25, peut-être plus. Donc votre dernier ouvrage qui s'appelle « L'abolition de l'âme » et qui est sorti dans le courant à la fin du premier trimestre dernier de l'année donc 2023. C'est un ouvrage très riche. La semaine dernière, on s'est interrogé sur les raisons qui vous ont amené à ça. Et finalement, en conclusion, même si on ne l'a pas dit comme ça, vous nous avez expliqué que vous avez constaté d'une certaine façon que le fait matérialiste de s'éloigner de la notion d'âme et de transcendance qu'il y a derrière était une forme d'opium du peuple, et que ce matérialisme excessif, dont Marx évidemment est un des chantres principaux, au fond nous endort dans une sorte d'absence de transcendance. C'est bien ça ?
Oui, on peut reprendre la formule par laquelle nous avons conclu l'émission précédente. L'athéisme est l'opium du peuple. Donc on retourne tout à fait Marx, d'autant plus qu'il n'y a pas de valeur logique à l'idée d'athéisme. C'est une idée que l'on peut estimer parfaitement absurde, si vous voulez.
Alors, oui, à la rigueur, on pourrait dire, bon, on peut comprendre qu'on soit agnostique.
Voilà.
Parce que l'agnostique dit, au fond, moi, je n'ai pas de preuves scientifiques, palpables, que Dieu existe. Donc, dans le doute, je ne crois ni d'un côté ni de l'autre. Mais l'athéisme, ça va plus loin. C'est une négation de Dieu.
Oui, c'est avec aplomb. Ouais. C'est... Puisqu'il ne peut pas y avoir de fondement véritable à l'athéisme, il faut affirmer avec aplomb, Dieu n'existe pas. Bon, j'ai trouvé tout à l'heure, en relisant Descartes, une jolie formule. Descartes, vous savez, grand mathématicien, oui. Outre philosophe, l'athée n'a pas la vraie science des mathématiques. Je crois que Descartes était beaucoup plus lucide sur l'illogisme ou l'irrationalité, ou l'irrationalisme de l'athéisme que beaucoup de nos contemporains. La philosophie. Mon prochain livre, c'est sur Descartes, justement. Il s'appelle Descartes, philosophe monumental. Ce sera au CERF aussi. Descartes se rend bien compte que sans l'idée de Dieu, aucune vérité ne peut tenir debout, et que sans doute c'est, de façon cosmologique et métaphysique, le monde qui ne peut pas tenir debout sans l'idée de Dieu.
Oui, mais alors les tenants de l'athéisme et donc de l'abolition de l'âme qui va avec d'une certaine façon, nous disent, mais justement, tout ça, c'est des vieilleries, il ne faut plus enseigner Descartes, il ne faut plus même enseigner Rousseau, il ne faut plus lire un certain nombre d'auteurs, au rang desquels Victor Hugo, etc. Enfin, il y a une sorte d'effacement, c'est la culture de l'effacement, que l'on veut faire de notre histoire. Est-ce que vous n'êtes pas contre-courant en produisant un livre sur Descartes ?
Oh, parfois, je vais dire le fond de ma pensée. Voilà, je vais essayer de dire la chose rapidement. Il y a dans l'histoire de l'humanité des moments de crise qui sont des moments de confusion généralisée et de prolifération des discours qui prétendent tous posséder la vérité et qui s'annulent tous les uns les autres, ce qui annule l'idée de vérité elle-même. Ce à quoi nous avons assisté très récemment avec la déconstruction dont nous parlerons bientôt. Voilà. Or, deux philosophes ont su imposer l'essence et la vérité. Et ces deux philosophes, ce sont les deux plus grands. Voilà, c'est Platon.
Platon
dans l'Antiquité grecque, alors que les sophistes étaient partout, que l'on pouvait dire de la même chose qu'elle est à la fois vraie et fausse, qu'elle est blanche et noire, qu'elle est bonne et mauvaise, suivant le point de vue dans lequel on se plaçait. Et arrive Descartes, non, la vérité, il n'y a qu'une vérité. Le beau, le bien, le vrai et le juste, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un seul beau. Et alors ce sont les essences, hein, les idées qu'on appelle les essences. Vous voyez, avec Platon, vous avez un commencement de la philosophie. Moi, j'insiste pour dire que la philosophie, c'est la science de la vérité, du bien, du vrai et du juste. Ou comme l'appelait Malebranche, Malebranche disait que la philosophie, c'était l'amour de l'ordre. L'amour de l'ordre. Voilà. Et une seconde fois, à la fin de la Renaissance, au début de l'âge classique, nous nous retrouvons dans une situation de confusion généralisée, parce qu'il y a l'émergence de la science nouvelle, l'inadéquation de la scolastique dans sa dernière période par rapport aux innovations scientifiques, que cette scolastique est à ce moment-là incapable de prendre en compte, et se développe à nouveau le scepticisme, l'indifférentisme quant au vrai ou quant au faux, le relativisme, le livre de Charon sur la sagesse, par exemple, les aristocrates libertins, Lamothe Levaillé, vous voyez. On est dans une confusion, et Descartes arrive, mais en disant qu'il faut tout reprendre dès les fondements. Voilà. Douter de tout, non pas pour rester dans le doute, mais pour trouver
la vérité.
La vérité, hein. Vous savez, pour Descartes, il ne faut pas douter en permanence. Il faut douter une fois dans sa vie. Voilà. L'homme ment sur Descartes, lorsqu'on dit que Descartes est le philosophe du doute, et qu'il faut douter tout le temps, et que la science est douteuse, c'est une fois dans sa vie, pour remettre en quelque sorte les compteurs à zéro et pour trouver ce que c'est que la vérité, ce que c'est que bon Dieu pour Descartes, l'homme, les essences, et ainsi de suite. Donc je crois que le travail du philosophe, c'est un travail de rupture avec l'ère du temps. Lorsque le temps est, comme le nôtre aujourd'hui, dans la confusion.
Grande confusion.
Voilà, et donc c'est un travail de reconstruction. Et alors, Platon et Descartes, ce sont des reconstructeurs.
Oui, et c'est en cela qu'au fond, votre discours est salutaire, et je ne saurais trop encourager nos auditeurs à plonger dans votre dernier ouvrage ou dans les précédents, parce qu'effectivement, on est dans une période de relativisme total. Et c'est vrai que quand on repense aux précepteurs sophistes de l'époque de Platon, ben on trouve qu'il y a une très grande similitude avec l'approche relativiste aujourd'hui, où on remet tout en question. Et cette approche relativiste s'accompagne d'un courant déconstructionnisme, c'est-à-dire qu'on veut tout déconstruire. Et quand les choses ne plaisent pas, eh bien, on les efface. Moi, je trouve ça la pire des confusions. Effectivement, on ne sait plus où on en est. Et si on ne veut pas que notre civilisation disparaisse, ce n'est pas l'humanité qui disparaîtra, parce que d'autres prendront le pas, et on le sent bien, on le voit bien aujourd'hui, mais notre civilisation peut disparaître si on laisse faire, si on ne réagit pas par rapport à ça. Et merci, monsieur Heidegger, de nous dire, attention, c'est pas la première fois que ça arrive, et il faut savoir reconstruire plutôt que déconstruire pour retrouver la vérité. Et la vérité, le beau, je vous racontais en aparté avant de venir que moi, un des premiers grands chocs que j'ai eu et qui m'a fait abandonner définitivement l'approche relativiste, c'est quand j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, d'aller à Lascaux et de visiter les grottes de Lascaux. Et j'ai, ce jour-là, j'ai eu un choc absolu en me disant, il y a une permanence du beau. Il y a une vérité du beau. Les hommes de Lascaux, il y a 20 000 ans, avaient déjà la même approche que nous de ce qui est beau et de la recherche de la transcendance, etc. Donc il y a une permanence.
Et le beau, dans ce cas, c'est aussi le symbole de la vérité, du bien et du juste, ce que Platon, dans la République, éclairera.
Ben oui, ça, les gros des hommes préhistoriques, nous en sont la démonstration. Ils n'avaient pas l'écriture, mais ils avaient le symbole de ce qui est bien et juste. Merci, Monsieur Redeker, pour ce deuxième entretien. On brûle d'avoir les suivants, parce que je pense que vous nous parlez de choses qui sont au cœur de nos préoccupations contemporaines et de ce que peuvent vivre les uns et les autres dans leur famille, dans leurs relations, dans leurs pratiques de leur religion. Merci, Robert Redeker.
Merci aux auditeurs pour leur attention.